Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Arthur Magne. Arthur, bonjour.
Bonjour Benoît.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Tout à fait. Donc, moi, je suis Arthur Magne, CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Promise, que j'ai créée il y a à peu près 8 ans et qui est spécialisée justement dans l'édition de logiciels pour les entreprises qui font du développement. Et on a développé des plugins pour les IDE et des outils de revue de code qui permettent aux équipes de se partager de l'expertise, donc des skills, des bonnes pratiques de développement sur n'importe quel sujet. Architecture, test, Java, React, n'importe quoi.
Et ce que je trouve ça super intéressant de réfléchir un petit peu justement à comment se partage l'expérience et l'expertise, parce que je trouve que c'est un vrai sujet dès que l'équipe, l'équipe grandit. À la rigueur, tant qu'il n'y a qu'une équipe, il y a une certaine homogénéité qui est encore relativement simple à trouver. Mais dès qu'en plus tu commences à avoir plusieurs équipes qui interviennent sur des code bases soit similaires, soit différentes, garder la connaissance acquise, tu vois, tout ce qui est knowledge management, la gestion de la connaissance, et avoir une certaine cohérence dans la manière dont les choses sont faites pour simplifier la maintenance et le suivi, c'est hyper compliqué, je trouve.
Tout à fait, c'est vraiment pour ça qu'on s'est mis justement sur ce credo en se disant, pour la petite histoire, la startup a été créée suite à des travaux de thèse justement et de recherche autour du partage d'expertise dans les équipes. Et les premiers sujets sur lesquels on travaillait, c'était comment est-ce que les entreprises font aujourd'hui pour se partager d'expertise. Alors, il y a plein de manières de faire. Tu as déjà tout ce qui est outils automatiques d'analyse de code comme Sonar, SonarCube ou des Linter, etc. Certaines personnes se disent, tiens, ça c'est une bonne manière de se partager d'expertise. Ce qu'on a vu en quelques années, c'est que c'était vraiment pas le cas.
Ah ouais, mais un linter, c'est pas mal. Un linter, ça permet de standardiser un petit peu les choses et indirectement de partager de l'expertise.
En fait, c'est très indirect, dans le sens où avec un linter, tu vas arriver avec un ensemble de règles déjà définies, qui souvent ne sont pas des règles qui ont été définies par ton équipe ou ton entreprise, mais plutôt par un...
Ouais, il faut les adapter, bien sûr.
C'est ça.
Ouais.
Donc, il y a toujours une adaptation à faire. Et derrière le linter, en fait... c'est vraiment qu'une toute petite partie de l'iceberg. C'est vraiment le sommet de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que si tu prends Sonar, par exemple, ça va analyser peut-être 5-10% des défauts que tu vas avoir dans le code ou des problèmes qui vont être automatiquement identifiables. Mais derrière, toutes les choses qui sont vraiment importantes et contextuelles à l'équipe, sur des manières de faire, comment est-ce que tu instancies tes tests, comment est-ce que tu gères les erreurs, les logs, comment est-ce que tu identifies... comment est-ce que tu instancies des composants, par exemple, des choses comme ça. Tout ça, en fait, ça va venir justement des êtres humains. Et c'est vraiment ce qu'on a fait des débuts, c'était de se dire, ce qui est important, ce n'est pas forcément des outils d'analyse ou des rapports de couverture de tests, ou des indicateurs, en fait, sur ton code. Ça, c'est plus une résultante de la stratégie que tu vas mettre en place, justement, dans l'équipe pour partager d'expertise et pour mettre en avant des manières de faire différentes.
C'est quoi les patterns que tu vois dans les équipes qui arrivent à partager efficacement leur expertise?
Alors, de base, en fait, tu as plusieurs manières de faire vraiment pour que les gens puissent se partager des choses. Tu as ce que tout le monde connaît, les revues de code. Les code reviews, c'est mis en place dans quasiment toutes les entreprises avec qui on travaille. C'est très bien pour se partager justement de l'expertise, mais souvent, il y a des petits problèmes dans la mise en place justement de ces revues. Souvent, des équipes nous disent, on a beaucoup de commentaires qui sont plus des commentaires liés à de la syntaxe, par exemple. Donc, on n'a pas de commentaires sur le fond, vraiment sur la fonctionnalité en elle-même et est-ce que tu as vraiment vérifié tous les cas à la limite, etc. C'est plutôt des commentaires du type la méthode est trop grande, là tu utilisais tel truc, fallait utiliser ça, etc. En fait, tous ces commentaires dans la revue de code, souvent, ça vient alourdir un petit peu la revue. Il y a des développeurs juniors qui peuvent se sentir un petit peu pris pour cible. Et on a eu des retours d'expérience de personnes qui nous ont dit moi j'ai très mal vécu justement mes premières revues de code. Donc il faut faire attention justement dans ces revues de code à mettre en avant des choses, des commentaires qui sont vraiment des commentaires sur le fond, pas uniquement sur la forme, mais vraiment des commentaires pertinents. Donc souvent on a des problèmes avec les revues où il y a beaucoup de commentaires, et le problème des commentaires, c'est que tu capitalises pas dessus. C'est-à-dire que tu fais un commentaire à quelqu'un qui a écrit du code et qui a envoyé une merge request. Le problème de ça, c'est que ce commentaire, une fois que le code va être mergé, il va être perdu. Et en fait, c'est un peu comme la page 2 de Google, on va dire. Tu es sûr que personne ne va jamais relire des anciens commentaires sur un projet, sur GitLab ou GitHub. alors que pourtant c'est des choses qui, c'est une matière vraiment qui est importante parce que c'est une partie de l'expertise de l'équipe qui se retrouve un petit peu là-dedans. Donc ça veut dire, tu vois, que la revue de code, ça vient un peu essayer de résoudre un problème de partage en amont qui n'a pas forcément été fait de la meilleure manière. C'est plus des choses qu'on aurait ratées. Et tu as des manières de faire qui sont plus synchrones, comme du pair programming ou du mob programming. Donc, pour tout le monde, c'est quand tu travailles avec l'ensemble de l'équipe sur le même clavier, sur le même ordinateur, sur un problème en particulier. Et là, c'est une sorte de revue de code, hein, mais qui va se faire de manière synchrone parce qu'on va être avec tout le monde en même temps. Et là, c'est super intéressant parce que tu vas avoir un échange qui va être plus fluide. Tu vas pouvoir partager avec tout le monde d'un coup. Donc, il y a peut-être des gens dans l'équipe qui ont une expertise sur les tests ou sur la sécurité ou l'accessibilité. Et donc, tu vas pouvoir bénéficier comme ça un petit peu des skills, on va dire, de chaque personne de l'équipe. Le problème qu'on a vu avec ça, c'est que, comme tu disais hein, au début, ça marche bien pour une équipe, mais tu capitalises pas vraiment sur ce qui est dit à l'oral. En fait, c'est plein d'échanges qui sont pas vraiment tangibles. Donc, c'est très volatile, en fait. T'as d'expertise qui passe comme ça à l'oral. Si après, les gens s'en souviennent plus ou qu'il y a du turnover dans l'équipe, ce qui arrive régulièrement, ou alors même que tu travailles avec d'autres équipes d'entreprise, bah, en fait, c'est compliqué de capitaliser un petit peu sur tout ça. Et donc, c'est là où, effectivement, on a créé du coup des facilitateurs, entre guillemets, qui sont des plugins pour ces outils de revue de code qui vont permettre aux gens, lorsqu'on met un commentaire ou lorsqu'on est, depuis notre IDE, en train de travailler en mob programming, de se dire, bah, tiens, ça, c'est une bonne pratique, ou ça, c'est une mauvaise pratique, ou à l'inverse, j'ai une question sur ce morceau de code ou quoi que ce soit. Et l'idée, c'est de capitaliser sur tout ça pour être capable de l'enregistrer quelque part, dans une base, pour que des nouveaux arrivants puissent trouver un petit peu quelle est la culture qu'on a mis en place, quels sont les choix techniques qu'on a fait, comment est-ce qu'on instancie des tests, etc.
Mais comment tu le fais vivre après? Parce que le nouvel entrant, il ne va pas se taper la base de pratique, quoi, tu vois.
Ah, tout à fait.
Parce que là, si c'est purement comme ça, ça me fait penser au wiki. Tu sais, les wikis qui sont maintenus par une personne ou deux parce qu'ils trouvent ça important et en fait que personne ne lit et qui sont jamais mis à jour après parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se désespère que personne ne le lise, tu vois.
Ouais, c'est un super exemple, les wikis avec Confluence ou Notion. Même nous, en interne, on avait fait des pages d'onboarding en fait, de nouveaux arrivants. Et au bout de quelques semaines, on disait aux gens, n'allez pas les voir parce qu'en fait, elles ne sont plus à jour. Donc, on préfère à la limite.
Obsolète, ouais.
Voilà, on préfère que vous n'alliez pas les voir. Donc, c'est vrai que la documentation technique, c'est un vrai sujet hein, dans les équipes. Ce qu'on va retrouver dans Confluence ou des wikis, ça doit être ce qu'on appelle de la documentation evergreen, donc qui est toujours vraie ou au moins qui est vraie pendant plusieurs mois, du type une doc d'install, par exemple, des trucs d'architecture assez génériques ou quoi que ce soit. Mais tout ce qui est skills, gestes, on va dire, et manières de faire dans le code, ça évolue beaucoup trop vite. En quelques semaines, on peut changer notre manière d'instancier des choses, d'architecturer même quelques composants, etc. Donc ça, c'est des échanges que nous, on permet justement avec les plugins de remonter au jour le jour depuis les IDE et lors des revues de code. Et derrière, comme tu disais, quand il y a quelqu'un qui va arriver, en fait, il ne va pas se taper toutes les pratiques qui ont été créées. On a mis en place aussi un autre format qu'on a testé il n'y a pas hyper longtemps, mais qui est assez récent. Quelque chose qu'on a appelé des ateliers découvertes, ou des discovery workshops en anglais. Et l'idée, c'est que ton équipe peut mettre en avant quelques pratiques les plus importantes, ou alors des pratiques sur une thématique précise, du type accessibilité, sécurité, performance. Et derrière, un nouvel arrivant, en fait, va retrouver des différentes pratiques. Et pour justement être sûr que la personne a compris cette pratique, on va lui demander d'aller la retrouver dans le code, là où elle a déjà été identifiée par notre équipe, depuis son IDE ou lors d'une revue de code.
Un petit côté gamification en plus dans le truc.
C'est ça, on a toujours une touche de gamification qu'on aime bien rajouter. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, bah, on rend ça un petit peu ludique. Et l'idée, c'est d'aller, à partir d'un fichier qui est un fichier d'ailleurs du code source du projet, hein, comme ça permet en même temps de découvrir la code base un petit peu de l'équipe, d'aller retrouver justement ces différentes pratiques en positif ou en négatif, est-ce qu'elles ont bien été appliquées ou pas, histoire que la personne, après, quand elle est toute seule devant son ordinateur, puisse être capable d'avoir une sorte de linter dans la tête. Tu en as parlé des linters. Le linter le plus puissant, c'est celui que tu as dans le cerveau. C'est vraiment, est-ce que toi, en tant qu'expert, tu es capable, quand tu arrives sur le code source d'un projet, d'une équipe que tu ne connais pas, j'imagine que toi, Benoît, ou moi, on va avoir un regard très différent sur le code. Toi, il y a peut-être des choses qui vont te sauter aux yeux, tu vas dire, bah, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Et moi, je vais avoir aussi plein de choses qui vont me sauter aux yeux, en pas bien et en bien. Et si ça se trouve, ça ne va pas du tout être les mêmes éléments qu'on va mettre en avant.
Ouais, très probablement.
Tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on a vu de plus étonnant avec des équipes depuis quelques années. c'est qu'en fonction du contexte, de l'équipe, de l'expérience des personnes, de la formation, de tout plein de contexte extérieur, tu vas avoir des gens qui vont avoir un regard super différent. Et ça amène aussi à un autre problème qui est plutôt de la guerre d'ego. On n'en parle pas suffisamment, je trouve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui recrutent des gens qui sont assez seniors et qui se retrouvent avec d'autres problématiques que celle de former des gens, qui sont des problématiques liées justement aux égos des coachs un petit peu et des mentors qui vont arriver dans les équipes, qui ne vont pas avoir la même expérience et donc la même manière de faire. Il y en a qui vont dire non, il faut utiliser des contextes, il faut utiliser Redux, il faut utiliser des hooks, il faut utiliser autre chose, etc. Et du coup, il y a une vraie homogénéité un petit peu là-dedans à trouver. Évidemment, chacun a sa manière de faire, mais pour un projet et pour une équipe, c'est important d'aller dans la même direction. Si tu te retrouves une fois sur deux avec des fichiers qui sont structurés d'une manière complètement différente, ça peut s'apparenter à de la dette technique, parce qu'évidemment, ça va être super dur pour tout le monde de rentrer dans le code. Donc, c'est vraiment pas ce que les équipes veulent. Et pour ça, il faut se mettre d'accord. C'est vrai que nous, on a mis...
Est-ce qu'il pose la question des process pour se mettre d'accord ? Et je trouve que c'est quelque chose qui a toujours... que je trouve très dur, en fait. Alors, peut-être parce que j'ai pas assez creusé le truc, mais tu vois, se mettre d'accord sur les règles auxquelles tout le monde va se conformer, j'ai l'impression que c'est un vrai challenge en soi. C'est-à-dire que identifier les choses, les faire remonter, les collecter, les archiver, fine. Mais pour moi, il y a une vraie question autour de comment est-ce qu'on les fait vivre ? Parce qu'à partir du moment où tu as ces règles qui sont communes, ben voilà, ça devient un commun. Et c'est un petit peu comme un open space, tu vois. Il faut définir des règles du jeu. Qui définit qu'on va mettre le truc à 21 degrés ?
C'est ça, c'est la recette.
Est-ce qu'on met l'open space à 21 degrés ? Et ça renvoie à des questions d'organisation, à des questions de gouvernance, en fait, de la gestion de ce commun. Et tu as tout de suite mis les pieds dans le plat en disant le gros risque, c'est qu'il y ait de l'ego en place et que ça vienne foutre le bazar. Parce qu'il y a des fois où il n'y a objectivement aucune raison de préférer une manière que l'autre, à part justement une question de préférence. Et même parfois, il y a des situations qui pirent. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec de très bonnes idées qui sont très pertinentes par rapport à ce qui existe. Mais que ce soit dans la manière de l'amener ou que ce soit dans l'impact que ça peut avoir, cette idée est rejetée. Moi, j'ai déjà eu des développeurs qui m'ont fait part de cette expérience d'arriver dans une équipe, tomber sur un morceau de code affreux, une classe de plusieurs milliers de lignes. Le gars se tape un énorme refactoring, il met tout d'équerre avec un joli design et tout ça. Deux jours plus tard, la pull request est rejetée.
On a eu le cas un peu pareil avec la clean architecture.
Ah ouais, mais il est arrivé avec quelque chose de beaucoup trop différent, trop nouveau, trop. En mode un peu, en plus, probablement, je vais vous expliquer la vie. Et ça avait beau être pertinent d'un point de vue technique, ça l'était beaucoup moins dans la manière de l'amener, en fait. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi, vous, à ces questions de comment est-ce qu'on fait vivre les règles ? Comment on se met d'accord sur les règles qu'on va utiliser ou pas ?
Ah, c'est vrai qu'on voit différents formats dans les entreprises. Il y a des communautés de pratique qui se mettent en place, ce qu'on va appeler des chapters dans les entreprises avec pas mal d'équipes, justement. Donc, c'est des regroupements de personnes sur une thématique transverse, du type de Java ou la sécurité, par exemple, ou l'accessibilité. Et souvent, on va avoir des points d'échange qui vont avoir lieu peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, avec tout le monde, autour d'un sujet. Ça peut être de la veille, ça peut être des revues de code qu'on va faire ensemble, ça peut être des sujets techniques, etc. Et c'est vrai que nous, on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment cette sorte de rétrospective de sprint dédiée à l'équipe technique, vraiment sur des choix techniques à mettre en place. On a mis en place un format qu'on a appelé des ateliers craft, qui sont en fait des revues des pratiques qui ont été remontées par l'équipe pendant le sprint. Donc l'idée, c'est de se dire, chaque pratique remontée depuis son IDE ou lors d'une revue de code, ça ne doit pas être bloquant. Ça ne doit pas être comme un commentaire de revue de code où tu dois le traiter tout de suite, etc. L'idée, c'est de ne pas ralentir l'équipe, donc de ne pas ralentir justement le lead time pendant le sprint. Et à la fin du sprint, on se dit, on a un créneau d'une heure, c'est timeboxé. Et là, on va se mettre d'accord justement sur des différentes pratiques, on va les présenter. Et si on a des différents, on va pouvoir voter, argumenter et essayer de trouver la meilleure manière de faire. Et ce qui est marrant, c'est que la meilleure manière de faire, des fois, ce n'est pas forcément... c'est pas forcément la même pour tout le monde dans l'équipe. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire...
Comment tu résous ce conflit ? Comment tu résous ce conflit au sein des équipes ?
Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de la démocratie. C'est-à-dire qu'on va pousser aux entreprises avec qui on travaille que ce n'est pas forcément le tech lead, s'il est tout seul dans son idée, qui doit imposer une manière de faire. On a eu l'exemple il y a quelques semaines avec quelqu'un qui voulait pousser de la clean architecture, mais un petit peu poussé sur de la gestion d'événements, etc. Et en fait, il est dans une équipe où il n'y a pratiquement que des juniors, dont des gens qui sont en reconversion, etc., qui ont déjà du mal, en fait, avec les principes les plus simples quand ils doivent développer. Et là, le tech lead a voulu pousser une pratique très avancée qui rajoute de la complexité dans le code. Donc, évidemment, sur le papier, c'est peut-être la meilleure manière de faire pour le projet. Mais en réalité, en termes de performance, tu vas gagner des microsecondes ou des millisecondes sur un projet qui n'a pas de souci en particulier de performance et qui n'est pas là pour être super performant. Et du coup, c'est l'équipe en entier qui a dit « ouais, on ne va pas aller aussi loin dans l'architecture, on va faire un truc plus simple. » Et donc, notre pratique, dans notre cas, dans notre contexte, ça va être de faire des trucs de cette manière-là qui va être plus simple. Et c'est vrai que nous, on essaye, en tant qu'intervenant externe, de pousser un petit peu ce truc-là en disant toutes les pratiques dépendent du contexte dans lequel il faut les appliquer. On ne va pas aller chercher de la performance extrême quand on n'a pas besoin. On ne va pas aller chercher de l'accessibilité extrême quand on n'en a pas besoin et que c'est juste une application utilisée par une ou deux personnes, par exemple. Donc, on va vraiment essayer d'être pragmatique sur tout ça. Et souvent, ça passe. Les seuls moments où ça ne passe pas, c'est quand il y a plusieurs personnes qui ont une position de tech lead dans la même équipe, ce qui arrive parfois. Et quand les personnes ne sont pas d'accord, où là, effectivement, il faut des arguments. Et à ce moment-là, on ne va pas trancher tout de suite avec les gens, on va leur dire vous allez garder quelques jours et vous allez pousser des arguments en fonction de ce que vous pensez être juste justement sur la pratique. Et derrière, on fait une revue des arguments en disant là, il y a tous ces points qui sont pour, tous ces points qui sont contre. Et en fonction, on a toujours réussi à trancher. Et des gens ont réussi toujours à trancher. On n'a pas eu un seul cas où des gens se sont dit non, on n'est vraiment pas d'accord. La seule fois, je crois, où c'est arrivé, en fait, il y a le tech lead qui avait un peu plus d'expertise, qui était là depuis plus longtemps, qui a dit c'est 50-50, mais on va plutôt utiliser cette manière-là. Bon, là, effectivement, on ne peut rien faire de spécial par rapport à ça.
De toute façon, si c'est 50-50, que ce soit l'un ou l'autre, tu as fait chier autant de personnes, donc c'est bien pareil.
C'est ça.
Mais le problème, c'est plutôt quand une personne embourbe 10 autres personnes, quoi.
Ah, c'est vrai que nous, on pousse tout le temps aux équipes que la seule autorité, elle doit venir de la connaissance et non du pouvoir. C'est pas parce qu'on a un rôle de tech lead plus expert ou que ça fait plus longtemps qu'on est dans l'entreprise qu'on doit prendre des choix qui n'iraient pas avec l'ensemble de l'équipe. Donc, on aime bien dire aux gens, en fait, vous avez peut-être votre idée de ce que c'est que du développement et votre manière de faire. Attention à ne pas brusquer le reste de l'équipe. Et si vous êtes sûr que c'est la bonne manière de faire, je prends l'exemple, utiliser des tests data builder pour instancier des fichiers de test, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour des juniors, mais ça rend des tests bien plus compréhensibles et bien plus faciles justement à faire évoluer. Là, dans ce cas-là, il faut l'expliquer à l'équipe et il faut les former, donc varier les formats, c'est-à-dire pas faire que des ateliers craft, mais aussi des sessions de coding dojo, par exemple, avec toute l'équipe. Et on va prendre un cas concret sur notre projet et on va le faire ensemble, en mob programming, par exemple, et on va montrer le geste, justement, on va montrer... Donc ça, c'est un vrai tech lead avec une vraie position de mentor qui doit pas imposer des idées, mais qui doit les présenter et qui doit montrer l'exemple, surtout aux gens. Et après, les gens dans l'équipe ont souvent tendance à répliquer ce que fait le tech lead quand il y a quelque chose qui est produit. Et s'il y a une personne qui nous montre l'exemple, on a tendance à bien le faire. C'est ce qui se passe du moins pour nos utilisateurs. En moyenne, on a à peu près 30 à 40% des gens qui contribuent vraiment à créer des pratiques, à pousser de la connaissance. Donc, ce n'est pas 100%, mais ce serait utopique de penser que tout le monde va contribuer de la même manière. Et au final, 30-40%, c'est déjà pas mal du tout. C'est un peu les mêmes scores que tu as dans les projets inner source. Et derrière, par mimétisme, les autres personnes en fait, vont appliquer des pratiques qui ont été poussées, vont aussi de temps en temps remonter des choses. Mais en fait, ça crée vraiment ce qu'on appelle une culture de l'apprentissage, une learning culture poussée par Accelerate, par exemple, en ce moment. Qui est vraiment de faire en sorte que l'équipe soit toujours dans une recherche d'amélioration. Le pire, ce serait de tomber sur une équipe où on a l'impression vraiment que personne veut progresser, veut changer ses manières de faire, et se dit en fait on a toujours fait comme ça, on va pas faire différemment, même si c'est mieux, etc. Il faut vraiment pousser justement cette culture d'apprentissage, et c'est souvent le rôle du tech lead justement ou du mentor qui est justement d'essayer de faire rentrer tout le monde dans le moule de on va chercher à progresser. Et il faut mettre les bons formats en place. Donc, mélanger des coding dojo, mélanger des temps de rétrospective technique avec l'équipe. C'est super important de prendre du temps pour s'améliorer, pour progresser, aller plus vite et être plus productif.
Eh bien, écoute, Arthur, je te propose qu'on se quitte sur ces belles paroles. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où ?
ils peuvent me retrouver sur LinkedIn en tapant Arthur Magne ou sur notre site web Promise, où on a un blog où on parle justement un petit peu de tous ces sujets de partage d'expertise et de partage de connaissances.
Merci Arthur.
Merci Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, si tu veux te tenir à jour de ce qui se passe dans le craft et que tu as envie de suivre un petit peu les derniers articles que je vais publier, je te propose de venir sur le blog, tout simplement artisandeveloppeur.fr, et puis d'aller butiner là-dessus, voir ce qui te plaît. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.